Hé, hey, tonton!
Verveine, verveine.
What's happening? What's happening?
Hey. Underground.
Verveine Underground.
Eric Saint-Élégant pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein.
C'est nous le futur.
Underground.
Bonsoir, bienvenue dans Verveine Underground. On se retrouve chaque soir sur Europe 1 de 20h à 22h avec des invités qui viennent se raconter en musique. 1 de 1, devinez qui revient. Prince de Lascar, gangster d'amour, playboy de Sarcelles, légende de la musique, légende de la culture hip-hop qui est également comédien. Stomy Bugsy est dans les studios d'Europe 1. Comment ça va, Stomy?
Mouloud, comment tu vas?
Je suis trop content de recevoir Stomy.
C'est
à chaque fois, je suis content.
Moi, je suis très honoré.
En vrai, ça doit faire 25 ans que je vois ta tête. et ça fait 25 ans que t'as 25 ans, toi.
Toi aussi?
Non.
Toi aussi, bien. Vas-y, tu changes pas. Hein.
C'est quoi le secret, la routine beauté de Stomy Bugsy?
Ces dernières années, ça fait 7 ans, je suis vegan, tu le sais. Donc ça aide. Je suis bien dans ma tête, dans ma peau, j'aime les gens, j'ai pas de rancune. Je suis en paix.
L'aigreur, en fait, ça conserve, en fait.
Ouais.
De pas avoir d'aigreur,
ouais,
pardon.
Ouais. Ça conserve la vieillesse, j'allais dire. Non, pas de rancune. Même si j'ai l'embrouillé quelqu'un, je vais le voir. On se frappe, lui et moi, dans le caniveau. À la fin, on s'embrasse, tu vois. Non, je suis tranquille.
J'ai fait du sport aussi.
Du sport,
beaucoup
aussi,
de sport.
Beaucoup de sport, tous les matins.
Trop frais, t-shirt, James Dean.
Tous les matins.
C'est quoi ta routine sport?
Tous les matins, déjà, je me réveille à 5h du matin.
OK.
Lecture, méditation un petit peu. Non, après, je suis à la salle de sport.
Méditation, comment ça, méditation?
Ouais, soit prière, soit méditation.
D'accord.
Je me recentre, voilà. Je prie pour moi, ma famille, mes amis, l'univers, mes amis, mes ennemis. Et voilà. Et après, le sport, deux heures.
Lundi,
je fais pec, épaule, triceps.
Wow.
Et toujours du cardio.
Tu fais quoi comme cardio?
Lundi, cardio, non,
tapis,
je cours. Quoi,
tu
tapis,
cours,
ouais, ouais.
Quelle fréquence, quelle vitesse?
Je calcule pas.
Avec la pente ou...
Ouais, pente. Ouais.
Tu cours avec la pente ou tu marches avec la pente?
Je cours avec la pente et je marche avec la pente. Mais là, en ce moment, j'arrête un peu de courir. Je veux beaucoup marcher. C'est pour les genoux. Parce que
aux articulations.
J'ai plein de potes à moi, ils n'arrêtaient pas. Quand ils avaient 20 ans, 30 ans, ils couraient comme des fous. Et là, ils commencent à avoir 50, 60
sciatique.
Ans. Là, les genoux, tout ça. Donc là, plus la marche. Ouais. C'est bien, tu connais.
Bah oui.
Toi aussi.
Je connais en théorie. Je connais la théorie, pas la pratique.
Mais dis-moi, là, on est filmé ou.
Ouais, je crois. Pourquoi?
Ouais. Parce que maintenant, les radios, c'est un truc de très bien. Tu mets en radio. Et tout est filmé, c'est quoi ce monde? Moi j'ai bien fait de mettre ce t-shirt. Alors...
Toi tu viens de l'époque où la musique n'était pas filmée, Ministère Hammer, on ne connaissait pas vos têtes au début.
Ouais. Là, ouais, maintenant c'est vrai que, ouais, la preuve, Ministère Hammer, on n'a même pas de clip vidéo officiel.
Il y a eu le Rapline quoi.
Ouais, voilà, ouais. Rapline grâce à Olivier Cachin, on a eu le clip de Traite et tout ça. Mais sinon, il n'y a pas de clip vidéo. Un groupe, on dit, ouais, légendaire, les mecs, ils ont même pas un clip vidéo.
Moi, je me rappelle quand on a vu des photos de Ministère Hammer. Il y a des gars, ils me disaient, hey, Ministère Hammer, il y a un gars, c'est Snoop. Stomy, ton actu, tu fais un devoir de mémoire essentiel. Tu remets les soldats africains morts pour la France au centre de l'histoire tous les samedis et dimanches au théâtre du gymnase avec la pièce Un jour, trois petits points, j'irai à Détroit jusqu'au 29 mai. C'est une pièce coécrite par David Declos. Avec David Declos, mise en scène par Dominique Coubès avec l'aide de Laura Chevalier qui était avec toi dans les studios.
Exactement.
Et qu'on salue. Le pitch, durant la Seconde Guerre mondiale, Gilly Amakombi, joué par toi, Stomy Bugsy, tirailleur sénégalais de l'armée coloniale, est enfermé dans une cellule de la maison d'arrêt de Fresnes en novembre 1944. Il est enfermé pour avoir refusé de repartir pour l'Afrique. Avant d'avoir reçu l'argent qui lui revenait, il crie à l'innocence. Mais les seuls à lui prêter l'oreille sont ses deux voisins de cellule, le soldat français Marcel Brevent et le soldat américain Igor Latzig, qui vient de Détroit, d'où le nom de la pièce. C'est paradoxalement, dans ton travail d'acteur, la continuité du message depuis les premiers jours du Ministère Hammer.
Oui, sans faire exprès. Mais c'est vrai que quand je lis une pièce de théâtre, ou là je l'ai coécrite avec David Desclos, mais quand on m'envoie un scénario ou une pièce de théâtre, je cherche à me dire à la fin, c'est quoi le message de cette pièce, de ce film? est-ce qu'on va en ressortir grandi ou pas? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va, quelque chose qui va être véhiculé, qui va faire en sorte qu'on ressort plus humain, qu'on ait envie un peu plus de justice dans ce monde? Et je te donne un exemple. Quand je regarde les films de Charlie Chaplin, les temps modernes, les lumières de la ville, le dictateur, tout ça, c'est pas juste, il y a les gags à l'intérieur, il tombe par terre, il se bat, nanana, mais il y a toujours un message profond. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, même toi, dans tous les invités que tu reçois, au cinéma, dans la musique aussi, ça sert à ça. Si à la fin, si, quand tu écoutes une musique, et cette musique ne t'a pas fait poser des questions, ou te sentir plus vivant, ou plus combatif, bah à quoi ça sert? Tu vois? Et je pense que ça sert à ça. C'est important. Hier, on m'a envoyé un scénario. À la fin du scénario, je l'ai lu. Je me suis dit... Dès que je l'ai déposé, je ne m'en rappelais plus. Je pense que quand on écoute une chanson ou un film, il faut qu'on y...
Il faut qu'il y ait un impact.
Il faut qu'il y ait un impact. Et les gens, quand ils sortent de cette pièce de théâtre, déjà, ils ne veulent pas partir de la salle. Ils veulent absolument nous voir, nous toucher, moi, David Desclos et Cyril Gayle. Et ils ont les yeux rouges, ils ont le cœur qui bat. Ils sont fiers. Ils sont fiers d'être noirs, blancs, parce que c'est vrai qu'on a mis l'accent sur les tirailleurs sénégalais, mais ce n'est pas que l'histoire des tirailleurs sénégalais. Il y a l'histoire aussi des soldats blancs qui se sont fait tuer pour rien, des soldats américains. Et on parle aussi de tous ces combattants qui se sont battus dans les tranchées pendant cette guerre, noirs et blancs aussi. Et voilà, ça sert à ça.
Et surtout, c'est une histoire, cette pièce de théâtre, Tommy, qui résonne paradoxalement avec le conflit qu'on est en train de vivre en Europe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, c'est que la guerre, c'est pas simple, c'est pas noir, c'est pas blanc.
Exactement.
Mais c'est très compliqué en fait.
Bah, tu viens de le dire, la guerre, c'est pas noir, c'est pas blanc. Et je pense que on peut toujours négocier les armes, même si je vois que la France elle fournit des armes, elle aide l'Ukraine, c'est bien. Mais je pense que avant tout, faut négocier avec tous les savants qu'on a. Tous les hommes sages, on peut négocier. Ça veut dire que on peut envoyer des hommes, essayer de parler. La guerre, ça doit être le dernier recours. Et on le voit la France et l'Allemagne, toutes ces longues histoires de guerre qu'ils ont eues ensemble. Mais quand tu as vu François Mitterrand avec Edmund Kohl main dans la main à Verdun, à la fin, ça se finit comme ça. Les gouvernements, à la fin, ils finissent par être amis. Donc, la guerre, laissons ça. Communiquons, parlons, et on peut toujours éviter la guerre.
Est-ce que toi, t'es encore en guerre contre des gens ou contre des institutions, aujourd'hui, Tommy Bugsy?
Comme je le disais au début, si j'ai un problème, j'aime le régler. Mais je suis en guerre contre moi-même. Je suis en guerre contre moi-même. J'essaye d'être la meilleure personne possible. Tous mes défauts, j'essaye de les évacuer, de les canaliser. On ne peut jamais les tuer. Parce que quand tu as eu plein de mauvaises habitudes dans ta vie, le fait que tu as réitéré toutes ces mauvaises habitudes, elles sommeillent en toi. Même si jamais tu veux plus entendre parler, tu essaies de les tuer, elles sont les tapis dans un coin du cerveau, elle attend comme ça. Elle attend. Donc, il faut absolument... créer d'autres nouvelles habitudes qui combattent ces mauvaises habitudes. Et non, j'ai pas de... C'était quoi la question? Si je suis en guerre? Oui, je suis en guerre contre moi-même. Ouais. Voilà. Si tu veux que ce monde soit un monde meilleur, ben commence par toi-même, commence par ton voisin déjà. Si jamais tu es là, tu fais des grands discours à la télé, à la radio, et qu'il y a quelqu'un en bas de chez toi et que tu le calcules pas, tu vas pas lui donner à manger. Je vois plein de gens qui ont des baskets à 2000, 3000, mais il y a quelqu'un qui va leur demander 1 euro au feu rouge, ils ne vont pas leur donner. Non, il ne faut pas leur donner, je ne sais pas s'il veut. Peut-être qu'il va acheter de l'alcool, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as des baskets à 4000 euros, tu as un blouson de trucs, tu ne veux pas donner 1 euro? Aide les gens. Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Ce n'est pas ton problème ce qu'il va faire avec l'argent. Tu vois? Donc, c'est d'abord, je suis en guerre contre moi-même, tous les jours.
J'aimerais te faire écouter quelqu'un.
Regarde! T'as vu, j'ai acheté le t-shirt tout à l'heure.
Mais alors, j'osais pas te dire. Je savais pas si c'était un style.
Tu crois que c'était un style?
Je sais plus, ouais, c'est la mode, je sais plus. Je pensais que c'était un style.
Tu sais quoi, tout à l'heure, j'avais un autre t-shirt bleu. Et Laura Chevalier m'a dit...
Stomy avait une étiquette avec le M, plein de M, je me suis dit, c'est peut-être une nouvelle Kemar.
Je viens juste de l'acheter pour être beau chez toi, ouais. Et je l'ai mis juste en bas. Là. En bas, je me suis mis torse nu, j'ai changé de t-shirt, parce qu'en fin de compte, j'avais mis ce t-shirt-là dans une autre radio.
Moi, je tiens à le dire, comme Stomy, c'est le grand frère, je respecte.
T'as rien dit, hein.
Je vais pas afficher Stomy, moi.
Tu vois,
c'est pas
et
possible.
Moi, je me suis affiché moi-même, tu vois, je l'ai vu, je me suis dit, oh, je vais le dire.
Non, je peux pas. Moi, j'ai trop de respect.
C'est bien, t'es classe,
trop
t'es
de
classe,
respect.
Mouleux.
Stomy, est-ce que t'as des surnoms?
Surnoms?
Ouais. Est-ce que, par exemple, j'aimerais te faire écouter tous les surnoms de Falip ou pas et voir si tu en as autant.
J'ai plusieurs nicknames, comme on dit, plusieurs surnoms, justement, donnés par, souvent par mes fanatiques. Mais en ce moment, je préfère qu'on m'appelle Aigle.
Aigle?
Voilà.
Ok, Aigle, pas de problème. Bienvenue sur Europe 1, Aigle.
Merci.
C'est quoi les autres nicknames, Aigle?
Fali Ipupa du Cap La Merveille, El Maravilloso, El Marabi, El Pibe de Oro, El Pichit, El Niño del Mundo, El Magnifico, El Fenomeno, El Fantastico, El Excellentissimo, El Bellissimo, El Toreador, El Matador, El Cantador, El Professor, El Protagonista, Empereur 243K, Aigle.
Stomy Bugsy, quels sont tes surnoms?
C'est vrai que j'en avais beaucoup pendant un moment. Le prince des Lascars, gangster d'amour, le playboy de Sarcelles, tout ça. Mais après, avec le succès, après, j'ai arrêté. Après, je suis devenu vachement plus humble. Et non, les gens, ils peuvent m'appeler juste Stomy ou Gilles Duhart.
Ou Misto, encore?
Misto.
Il y a encore
Misto.
Des Misto?
Oui, il y en a plein. Misto.
Frito Misto. Stomy Bugsy, l'affiche d'une pièce qui s'appelle Un jour, j'irai à Détroit. C'est au Théâtre du Gymnase jusqu'au 29 mai. Pièce coécrite avec David Declos, mise en scène par Dominique Koubs, avec l'aide de...
D'ailleurs, t'as dit Dominique Koubès, maintenant. Dominique Koubs, c'est Koubs.
J'aime bien. Je savais que t'allais
remarquer. J'ai rien dit tout à l'heure. J'ai rien dit, Dominique Koubès.
Avec l'aide de Laura Chevalier.
J'aimerais te faire écouter quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. Souvent, on me demande dans les artistes qu'on a pu rencontrer avec Lick, c'est qui les plus grands? Un des plus grands, en tout cas, c'est un des moins connus. Il s'appelle Yoro Diao. C'est un tirailleur sénégalais. Après 57 ans d'attente, Yoro Diao a été naturalisé français par François Hollande en 2017. J'aimerais qu'on l'écoute.
On se plaint pas. Se plaindre pourquoi? On est bien soigné actuellement. On a notre carte vitale. La mutuelle, on se soigne bien. Et quand vous êtes bien logé et bien soigné à votre âge, vous plaignerez de quoi? C'est tout. Et il faut se projeter vers l'avant. Se plaigner ne sert à rien.
Tu vois, c'est ce qui me fascine chez les tirailleurs. Les anciens combattants. Ils sont humbles, ils demandent rien. Ils ont donné leur sang, leur vie, leur temps. Ils ont été déracinés. Il y en a qui ont été enrôlés de force. Il y en a qui se sont enrôlés aussi dans l'armée de leur volonté. Mais quand tu es jeune, en fin de compte, tu es enrôlé. Et ils demandent rien. Ils sont incroyables. Et c'est à nous de demander pour eux, en fin de compte. Tu vois ? Il y en a, c'est... Ils ont, pendant des années et des années... leurs soldes ont été... Il y a eu la cristallisation des soldes. Ils n'ont pas été payés. Ils ont été payés 4 fois ou 3 fois moins que des soldats blancs. Et tous les 3 mois. Et les anciens combattants blancs touchaient leur solde tous les mois. Grâce au président Chirac, il a changé ça quand il a vu le film Indigène. Mais la façon dont ils aiment la France, même encore, Yoro Diao, lui, il habite en France, mais il y en a qui sont au fin fond. Ils sont là encore, De Gaulle, la France. Mais c'est incroyable. Alors qu'il y en a plein qui ont été trahis par la France, qui ont été abandonnés par la France. Mais ils aiment la France. C'est incroyable.
Et toi, pourquoi est-ce que tu aimes la France?
Moi, j'aime la France parce que je suis français. Mais j'ai le droit de critiquer la France parce que je suis français. Je suis né ici, je suis né à Pigalle, rue des Martyrs. Je suis français. Avec des origines africaines, capverdiennes, qui coulent dans mon sang, mais je suis français. Et quand j'ai été habité 5 ans à Los Angeles, j'ai vu que j'étais français. Tu vois?
En quoi tu l'as vu?
La façon dont tu manges. Tu dis, putain, j'aimerais bien sentir un vieux camembert qui pue. Tu vas dans le supermarché à Whole Foods, tu prends les camemberts, ça pue pas, les trucs. Tu vois, tu veux voir un vieux film. L'architecture, vraiment, l'architecture te manque. T'es à Los Angeles, tu dis, j'ai envie de voir une statue. J'ai envie de voir une architecture. Tu reviens à Paris, tu vois les immeubles haussmanniens, tu regardes, tu arrives sur les Champs-Élysées, la pierre, tu vois? Aux États-Unis, ils n'ont presque pas d'histoire, tu vois. T'es français.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, je critique car je suis français.
Oui.
Est-ce que c'est ça être français en fait ?
Bien sûr, il faut critiquer son pays. Voilà, il n'y a aucun gouvernement, tous les pays sont parfaits, parce que les êtres humains sont parfaits. La nature est parfaite, mais les gouvernements ne sont pas parfaits. Tous les gouvernements du monde entier ont fait des erreurs. On se doit de critiquer, comme tout à l'heure je te disais, je me battais contre moi. Tu vois ? Et bien pareil, quand tu es français, tu dois critiquer ton pays. Tu dois pousser les gens qui sont au gouvernement à faire en sorte qu'il y ait un monde meilleur, qu'il y ait moins d'SDF, qu'il y ait des gens qui ont un toit, qu'il y ait des gens qui peuvent vivre décemment. C'est ça le but d'un pays. C'est pas juste de se dire j'ai de l'argent, je vote droite, 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 extrême droite et je laisse les gens crever. C'est pas grave, non. Et même du côté de la gauche, même si t'es de la gauche et que tu commences à monter ton entreprise, ta société, et tu commences à payer. Moi, je vois des gens, ils viennent d'ouvrir des sociétés, là, ils ont même pas gagné d'argent, ils payent. Ils disent, je vais arrêter, je vais me remettre au RSA, je vais me remettre à truc, je vais arrêter, parce qu'ils payent trop. Donc, aussi bien à droite et à gauche, il faut trouver la bonne façon de vivre.
Mais t'as été un des premiers rappeurs français à critiquer ouvertement l'antiracisme version PS, en fait.
Oui, dans J'ai fait un rêve.
Dans J'ai fait un rêve, dans le 11 minutes 30 contre les lois racistes, de dire que finalement, SOS racisme, c'est ce qui était arrivé de pire au quartier.
Je dirais pas ça, mais il y a des choses bonnes et il y a des choses mauvaises. Tu vois, comme il y a des gens là en ce moment, pour le second tour, il y a plein de gens, des gens noirs, hein, noirs ou maghrébins, qui me disent « Ah, je vais pas voter !» Je vais ni voter Macron, je vais voter Le Pen. Oh, je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Il me disait carrément, ah non, faut que ça change. Je dis, mais tu crois qu'en votant... Je dis, ok, si tu t'abstiens, ok, je comprends que tu veux t'abstenir, il n'y a pas de problème, je comprends. La politique de Macron, les gilets jaunes, le mépris, je comprends que tu veux t'abstenir. Mais de là à voter Marine Le Pen, tu dis ça parce que toi, tu as les papiers français. Si tu n'avais pas les papiers français, si tu avais une carte de séjour, quand les policiers te contrôleraient et tu sortirais des gros papiers comme ça, tu n'aurais pas dit ça. Donc, il y a plein de gens maintenant qui ne pensent pas aux autres qui sont arrivés après.
Mais c'est un fait, il y a aussi plein de gens dans les quartiers qui ont voté Le Pen au second tour.
Oui, parce qu'ils ont les papiers français. C'est tout. Si jamais ils étaient arrivés comme nos parents, la tête basse, à l'aéroport, à la douane, en train de trembler. Parce que moi, chaque fois que je voyage, quand j'arrive à la douane, je vois les douaniers qui prennent des mamas avec des enfants. Oh, venez, oh, vos papiers sont un peu bizarres, venez. Qu'est-ce qu'il y a là, là ? Voilà. Mais s'ils n'avaient pas de papiers français, ils n'auraient pas voté Marine Le Pen. Voilà. Donc ça, c'est du mépris. Il faut penser aux autres qui arrivent ou ceux qui attendent d'être régularisés depuis des années, qui n'ont pas de papiers français ici.
T'aurais imaginé, toi, qu'a pris le micro fin des années 80 dénonçant toutes ces choses-là, devoir dire 30 ans plus tard à des mecs de quartier ne pas voter Marine Le Pen ? T'aurais imaginé ça ?
Franchement, non, c'est incroyable. Incroyable. C'est pour ça que le président Macron, faut qu'il fasse attention. Faut qu'il arrête de prendre de haut les gens d'en bas.
Parce qu'au-delà d'un signe de victoire pour Marine Le Pen, c'est un signe de défaite pour qui ?
Pour la France. Pour la France, parce que si... Je ne sais pas si elle va se représenter dans 5 ans. À mon avis, peut-être. Parce qu'elle arrive, elle commence à sentir l'Élysée. Elle dit que c'est sa dernière, mais tu vois. Non, j'aurais jamais imaginé ça. Non, c'est incroyable pour moi. C'est incroyable. Je suis un peu déboussolé.
Et il n'y a pas une remise en question chez le rappeur que tu étais de dire avec tous les messages que tu as envoyés? Bah, peut-être qu'ils n'ont pas été entendus, peut-être qu'ils n'ont pas été compris.
Bah, tu sais, on ne fait que de la musique. Hein. L'art, ça inspire. Si, les messages ont été compris. Ils ont été compris. Mais je pense que les gens... Ouais, je pense que les valeurs de la France, ce que la France représente dans le monde, peut-être que le gouvernement n'est pas parfait, mais dans le monde, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Même si après, les gouvernements, ils ont fait des trucs, l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique. Mais l'idée de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est la classe. C'est la Révolution française, c'est la Révolution, c'est ce qui a inspiré le monde. C'est ça la réalité de la France, le vrai message. Et si une dame comme Marine Le Pen passe, la France, ça va être gâché. Le bleu, blanc, rouge, sur le côté blanc, là, il y aura une tache. Et il ne faut pas que la France soit entachée comme ça. Jamais il faut que l'extrême droite prenne le pouvoir dans ce pays.
Stomy Bugsy, tu es avec nous sur Europe 1. Stomy Bugsy, on t'a découvert avec le ministère Hammer. Tu es venu avec une playlist incroyable. Dans cette playlist, j'aimerais qu'on écoute Son of.
Bah, mon fils.
Ton fils qui fait un morceau qui s'appelle Rien à perdre. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Plus rien à perdre, alors nique sa mère. Ce qui motive, moi, c'est le salaire. On veut la quiche, ta quiche, ta pleine. Qu'est-ce balade, les fesses à l'air. J'ai plus rien à perdre, alors nique sa mère. Ce qui motive, moi, c'est le salaire. On veut la quiche, ta pleine. Qu'est-ce balade, les fesses à l'air. Moi, c'est gang, gang, gang. Sous Jack 7 sur 7. Trop de séries, trop de dettes, tout le monde veut la mallette. T'as capté le thème, poteau, c'est les billets ou la guerre.
Son of dans Verven Underground sur Europe 1. On est avec Stomy Bugsy. C'est qui Son of?
Son of, c'est mon fils.
Bilal.
Bilal. Bilal Duarte. Bilal, Mehdi, Stomy Duarte. C'est mon fils. Non, il s'est mis au rap depuis un pas mal de moments. Et voilà, il fournit des morceaux. Ils sont pas mal, ces morceaux.
Ouais. Ton fils, c'est un vrai enfant du rap. C'est-à-dire que la première fois où t'as parlé de ton fils, c'était dans tes raps. Mais à plein de niveaux, c'est-à-dire que tu parlais des galères avec les huissiers quand tu devais élever ton fils, et t'en parlais dans Mon papa et moi est un gangster, t'en as parlé dans énormément de
dans
morceaux.
Dans le titre de Ministère Amer, dans J'ai fait un rêve.
Justement. Et dans J'ai fait un rêve, t'avais même dit son nom, Bilal, ouais. tu l'avais cité. Et aujourd'hui, quand on voit l'héritage de Stomy, il y a d'un côté Son of et il y a aussi ta sœur, Pauline. Est-ce que tu peux nous parler de Pauline Duarte, qui est aujourd'hui une des patronnes du game? Tout simplement. Et je tiens à la féliciter parce que c'est une histoire incroyable. Raconte-nous, parce que maintenant, Stomy, c'est la famille Bugsy s'élargit.
Ma petite sœur, c'est un enfant du rap. C'est-à-dire, petite, quand mes parents ils partaient au travail, le mercredi, elle était avec moi. Et pas de nounou, tout ça. Elle était avec son grand frère. Moi, je suis plus grand qu'elle, de 8 ans. Ou 8 ans, voilà, 8 ans. On a 8 ans de différence. Et ça veut dire que je la traballais partout. Quand j'avais 14 ans, elle avait 8 ans. Tu vois, et moi je suis dans le hip-hop depuis que j'ai 12 ans. Donc, quand j'étais avec Rico à Sarcelles, sous les escalators, je devais breaker, je l'amenais avec moi. Quand je devais aller à Saint-Denis dans la salle des Actuelles Forces, je l'amenais avec moi. Au terrain vague, la chape, je l'ai trimballé partout, cette petite, tu vois, petite sœur. Donc, elle a vu le hip-hop grandir, naître. Donc, c'est tout à fait légitime qu'elle soit là où elle est. Personne connaît mieux que le hip-hop qu'elle, même moi. Parce que moi, je l'ai pris à 12 ans, elle est née dedans. Et surtout, la première fois quand elle est rentrée dans la musique, elle est rentrée chez Sony, à Columbia, dans le label où j'étais, pour un stage. Tu sais, à l'école, tu fais un stage, tu fais des photocopies, tu apportes les cafés. Au bout d'une semaine, la directrice de Columbia, elle est venue me voir, elle m'a dit « Hey, Stomy, ta sœur, elle repart plus d'ici. » Elle repart plus de ce label. On ne peut pas se passer d'elle. Elle connaît trop bien la musique. Tu vois, elle connaît trop bien la musique. Elle est brillante. On veut la garder. Mais je dis, mais non, elle est encore à l'école. On dit, on s'en fout de l'école. Tu vois, elle reste ici. Tu vois, c'est pour te dire à quel point elle est faite pour la musique.
Et elle fait quoi maintenant?
Bah, c'est la directrice de Epic, le gros label de Sony Music. Epic, c'était le label de Michael Jackson et tout ça.
Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la plus grande victoire de ta génération? C'est d'en avoir installé une autre.
C'est sa victoire, elle. C'est pas ma victoire. Moi, je m'approprie pas. Non, c'est sa victoire, elle. Elle est brillante depuis petite. Tu vois, quand on était petit, moi, je pouvais pas lui faire même. Je pouvais même pas la faire réviser ses cours à l'école, tout ça. Déjà, je regardais. Moi, c'était le hip-hop. Elle a toujours eu des notes brillantes. Et la première fois qu'elle a appris à écrire, les policiers ont appelé chez moi. Le mercredi, et moi j'étais pas chez moi le mercredi, parce que j'étais en garde à vue le soir. Donc elle était le mercredi toute seule. Les policiers, ils ont appelé chez moi, et ils ont dit, oui, ta maman, ton papa est là. Elle dit, non, elle est pas là. Je dis, est-ce que tu peux leur dire qu'ils viennent le chercher ton frère à la police? Elle a écrit. Et quand ma mère est rentrée du travail, elle a vu, il faut aller venir chercher Gilles à la police. Et ma mère, elle savait même pas qu'elle savait lire. C'est comme ça qu'on a appris qu'elle savait lire. Parce que elle a mis un mot qu'il faut venir chercher son frère à la police.
Incroyable.
Donc, tu vois. Donc, pour te dire, c'est une autodidacte.
Mais toi pure. Aussi Toi, t'es tombé dedans quand t'avais 12 ans, t'allais breaker partout.
Oui, oui.
Il y a des livres où on voit Stomy tout jeune devant des concerts.
Vrai. C'est vrai, je traînais partout. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir un grand frère, Venceslo Vance, qui était un des premiers mecs à faire des graffitis à Sarcelles, des fresques avec Dark. Il m'a mis le pied à l'étrier, ouais, petit, il m'a montré mes premiers pas de break, de dance. Et avoir un grand frère, c'est fantastique. Et toutes les personnes qui ont réussi sans grand frère, c'est fort aussi. Parce qu'avoir un grand frère, il t'aide. C'est lui qui te ferait un chemin dans la jungle.
Qu'est-ce qui t'a le plus aidé?
T'avais un grand frère, toi?
Non.
Bah, tu vois, t'es encore plus fort que moi.
Qu'est-ce qui t'a évité ton grand frère? C'est quoi le truc le plus précieux qui t'est donné?
Il m'a pas évité, il m'a amené. Il m'a amené dans des galères. Et c'est grâce à ces galères que je suis devenu... Mais il m'a évité à me faire casser la gueule. Des fois, grâce à lui, ça a été mon ange gardien.
À quel moment, toi, tu t'es mis dans la boxe? Parce qu'on parle de hip-hop, mais ton autre passion, c'était aussi la boxe.
La boxe, très tôt, mon père, il m'a toujours parlé de Mohamed Ali. Il adorait Mohamed Ali, il adorait de la boxe. Ma famille, fait partie d'une grande famille de boxeurs au Sénégal et au Cap-Vert. Mon grand-père, il faisait de la boxe. Mon oncle Aurélien, c'est un grand champion de boxe. Il a été plusieurs fois champion de boxe thaï et de karaté. On a la boxe dans la famille depuis longtemps.
Est-ce que ça pose aussi la question de la représentation? Mohamed Ali, c'était un modèle pour tous les mecs de ta génération. Il n'y en avait pas 36, il y avait Mohamed Ali. Ouais. Il y avait Huggy les bons tuyaux après. Tu vois, et pour moi, Tommy Bugsy, c'est la fusion de Mohamed Ali et de Huggy les bons tuyaux.
Sauf que je ne suis pas une lance-bas.
Non, évidemment.
Non, dans le style, dans le groove de Huggy. Ben oui.
C'est marrant parce que Snoop, il a dit pareil quand il a joué le rôle.
C'est vrai qu'Antonio Fargas, dans Huggy les bons tuyaux, il avait le groove. Dès qu'il est arrivé, la démarche, le style. Dès qu'il est arrivé, Huggy, on était tous contents parce qu'il avait le style. Et Mohamed Ali, c'est l'honneur, c'est la fierté, c'est la tchatch, c'est la personne qui baisse pas son froc. On t'enlève tes ceintures, on t'enlève ton argent, ton appartement, et dit non, j'irai pas au Vietnam tuer des hommes jaunes qui m'ont jamais insulté, qui m'ont jamais traité de nègre. Non, Mohamed Ali, c'est un des plus grands hommes sur Terre qu'on ait eu.
Parce que quand on parle de Stomy dans la musique, on parle beaucoup du ministère Hammer, mais moi j'aimerais qu'on rétribue deux projets de Stomy à qui on donne ses fleurs, comme on dit. Le premier, c'est Le Calibre qu'il te faut. Cet album que tu as travaillé avec Dr. L, il y a des productions dessus qui sont incroyables. Je commence par Le Prince des Lascars. Cette prod, elle est folle. Mais vraiment, prod électro, elle était folle. Comment se fait la connexion avec Dr. L, qui était à l'époque producteur d'Assassin?
Exactement. C'est grâce
à... Parce que
à...
c'était deux mondes différents.
Ouais. En plus, c'est grâce à mon manager de l'époque, Franck Hédin, qui me met en contact avec Dr. L. Et moi et Dr. L, on match. On match et voilà, on s'éclate. Et lui, très, très pointu, très relou. Moi, très fou. Donc, c'est deux univers complètement différents. Ouais. Et on va à la Maudière, loin de Paris, dans un studio. Et on s'enferme dans un studio, lui et moi.
Et dans cet album, il y a un morceau que j'aimerais qu'on écoute maintenant avec une prod qui sample un film de Pierre Richard. Et ce morceau, on va en parler dans un instant, c'est L'Ouvrier. Qui est un classique de Stomy Bugsy, je tiens à le dire, dont on n'a pas assez parlé. On écoute tout de suite L'Ouvrier sur Europe 1, on revient juste après.
Ma tête bouille le sang, l'hiver glacial, mes articulations au mal, au de blé. Je rêvais de blé, d'assemblée, de beaux meublés, comblés, de nana, accablé, endiablé, télé, câblé, moquette, déplaise, doublé. Mais je ne suis qu'é.
L'Ouvrier de Stomy Bugsy sur Europe 1. Je dis, pour moi, ce morceau, c'est un classique parce que je pense que c'est le seul morceau de rap français qui parle d'une France, en fait. Cette France-là, elle n'a jamais été évoquée dans le rap. Et déjà, dans le rap américain, elle n'existe pas. Mais dans le rap français, elle est unique de rendre hommage aux ouvriers français.
Parce que, si tu veux, j'étais ouvrier. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait de la boxe, j'ai été breaker, après j'ai arrêté l'école, j'ai fait de la boxe. Et entre le break et la boxe, j'ai été ouvrier. Mon père, il avait une petite société, il faisait des chantiers et il me prenait souvent avec lui, tu vois. Et ça veut dire que quand j'étais ouvrier, on allait faire ça dans les beaux quartiers, dans le 16e, on repeignait les appartements, tu ponces, après tu dois manger thon à la catalane. Les gens ne te regardent même pas. C'est-à-dire quand tu es un ouvrier, tu es en bleu de travail, tu es comme ça dans la rue, tu es comme si tu étais invisible. Mmh. Tu n'existes pas. C'est comme si tu es une merde. Mmh. Une merde. Encore même une merde, on l'évite. Tu vois, quand tu es un ouvrier, on peut même te marcher dessus. Les gens ne te regardent pas. Et je m'étais dit, voilà, il faut que je mette un peu de lumière sur les ouvriers, sur les gens qui font que nos appartements sont beaux. Qui a fait ce studio? Qui a fait ce studio aussi? C'est joli.
Studio Coluche d'Europe 1.
C'est magnifique. C'est des ouvriers qui l'ont fait.
Hommage à tous les ouvriers de France. Ben, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, cette expérience d'ouvrier? Quelle leçon t'en as tiré?
Déjà, la rigueur, le sérieux. Savoir que c'est dur, que je voulais pas rester là toute ma vie, il fallait que je fasse aussi autre chose, absolument. Voilà, et quand je vois un ouvrier dans la rue, je le regarde toujours. Monsieur, ça va, vous allez bien? Je parle toujours avec les ouvriers dans la rue, je leur donne du love, de la force, parce que ce qu'ils font, c'est super dur.
Parce que plein de gens ont dit, quand Tommy est arrivé avec le calibre qu'il te faut, il y a eu le succès de Mon Papa à moi. Il disait, il est moins hardcore que son Ministère Hammer, alors que ce morceau, L'Ouvrier, c'est un des plus hardcore du rap français. C'est un des plus vrais.
Ouais, parce que si tu veux, dans le calibre qu'il te faut, si tu veux, j'étais déjà décomplexé. J'avais déjà fait tellement des choses hardcore avec Ministère Amer que dans le calibre qu'il te faut, j'ai été sur d'autres aspects, tu vois. La vie, relation homme-femme, le rapport père-enfant, mère-enfant, parler des ouvriers... Et c'est vrai que c'est une France dure et profonde et pas reconnaissante, pas reconnaissante, les ouvriers, on les calcule pas. Donc c'est bien que tu rendes hommage à ce morceau.
Et puis il y avait ce truc de se dire, il y a le hip-hop, les Zoulous, les gens qui nous ont rejetés, et le hip-hop, c'est pas notre réalité. Ministère Hammer, ça a toujours été ça, c'était la réalité française.
Ouais, Ministère Hammer, c'est le terroir français, c'est la banlieue française. Si tu veux, à l'époque... Je ne vais pas cracher sur mes compères du rap français, mais c'était beaucoup tourné vers les États-Unis. C'est vrai que c'est l'inspiration, les États-Unis. C'est l'inspiration, le rap américain, c'est ce qui nous a montré la voie. Mais très vite, avec Kenzie, Getch, Desch, Passy, Ahmed Day, Moda, Garrix, on s'est dit... Et en plus, nous, on vient de Sarcelles, c'est pas pareil. Pour les autres rappeurs, c'est dur parce que dans les autres villes, quand tu habites à Paris, ou tu habites dans les... Sarcelles, c'est magique. J'ai fait toutes les banlieues du monde. Mais Sarcelles, la ville, elle était spéciale.
Pourquoi?
Parce que c'était musique africaine, musique antillaise. Il y avait ceux qui jouaient au pétanque, très français. Il y avait les Rorty Rebeux, Bécane. Mais c'était.
Il y avait les communautés juives aussi.
Moi, j'habitais dans le quartier Feuge, communauté Feuge à fond, tu vois. Tellement. Elle est spéciale, la ville. Et donc, quand tu es à. Tout est là. Pourquoi faire l'américain alors que tout est là? Tout est inspirant à Sarcelles. Elle est magique, la ville. Gare Sarcelles. Gare Charcel et Villers-le-Bel aussi.
Et je reparle juste de cet album. Il y a aussi La Gare du Rap, qui était l'ancêtre de Je t'emmerde de MC Jean Gabin.
Exact.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'avaient reproché ce morceau à l'époque? Ou qui l'ont mal pris?
Il y a un seul mec qui a mal pris La Gare
deviner.
Du Rap.
Laisse-moi deviner.
Vas-y.
Fab.
Oui. Il n'y a que Fab qui a... Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, parce qu'il a dit, peut-être j'ai piqué, la prochaine fois chez Nagui, si tu pars au moins avec une caméra Sony. Je me suis dit, quand il est parti, pète un truc, vole un truc, je sais pas. Moi, Nagui m'aurait affiché comme ça, j'aurais volé un truc. Je serais parti, j'ai dit, ah oui. Mais je pense qu'avec du recul, il a eu raison, parce qu'il a pris la défense du hip-hop ce jour-là. Mais... Il aurait dû le faire avec plus de swag, moins faire le mec frustré, mais en même temps, c'est sa personnalité.
Donc là, tu viens de présenter tes excuses à Fab.
Oui, je présente toujours mes excuses au frère avec qui... En plus, après, un jour, on s'était croisés, je lui ai dit, alors, non, tu veux qu'on sorte dehors, toi et moi, rouler par terre, tu vois. Après, il m'avait dit, non, laisse tomber, non. Il a eu raison.
Ça fait partie du passé.
Oui, non, c'est un grand monsieur du rap français, en tout cas.
Là, il nous manque.
Oui, c'est un grand monsieur, et je lui passe le salam.
À propos de demander ses excuses, il y a un morceau à toi dont on a parlé avec Mystique. Ce morceau, c'est Soir Hardcore. Mmh. Et j'aimerais qu'on écoute Mystique qui parle de ce morceau.
J'appelle Stomy. Je dis à Stomy, envoie-moi le numéro de Bruno. J'aimerais lui demander pardon. Mmh. Parce qu'il y a quelques années, je l'avais insulté. Stomy me dit, mais t'es un ouf, Mystique. Mais ça s'est passé en 2007, on est en 2021. Mmh. Je dis, frère, j'aimerais, si demain je dois fermer mes yeux, j'aimerais pouvoir dire à ce monsieur pardon. Stomy me donne son numéro, j'appelle, et ça répond pas. Ça sonne. J'ai dû l'appeler une trentaine de fois. Et il y a à peine une semaine, il y a quelqu'un d'autre qui m'a reparlé de Doc Gynéco. Du coup, merci de me poser cette question. J'espère que quelqu'un lui fera passer ce message. Bruno, on n'est pas amis. On a dû se croiser une ou deux fois parce que nous étions tous les deux proches, du coup, toi Sectora et moi proche Sectora par rapport à Bisso Nabisso. Je te demande pardon. J'ai sali par ma bouche, j'ai sali le nom de ta famille, au-delà de ta personne. Donc pour toutes les personnes qui écouteront ce morceau, écoutez ce morceau en ayant conscience qu'aujourd'hui, Mouloud Achour m'a donné la possibilité de dire pardon à Doc Gynéco.
Ça s'est passé sur un morceau à toi ?
Ouais.
Le remix de Soir Hardcore. Mmh. Et donc la Mystique présente ses excuses. Mais je me demandais sur ce morceau, comment est-ce que Stomy peut laisser son frère se faire insulter sur un morceau?
Mystique, quand il a amené le morceau, on était embrouillé avec Bruno. Mmh.
Est-ce que tu n'as jamais publiquement lâché Bruno, toi?
Non. Bruno, c'est mon frère. Même si Bruno, des fois, il a dit des trucs sur nous, sur moi et Passy, sur le ministère amer, même dans son livre et tout ça. Des fois, il dit des petites piques, il envoie des petites piques comme ça, mais quand tu l'attrapes, mais non, Stomy, c'est des menteurs, le livre. Et quand je le. C'est pas vrai, je les écoute pas. Mais non. Après, il te prend dans ses bras. Bruno, c'est mon frère.
Ouais.
Bruno, c'est mon frère, c'est mon petit frère.
C'est très dur d'en vouloir à Doc Gynéco.
J'ai tellement d'amour pour lui. Ouais. Tu peux pas lui en vouloir.
Non.
Il peut dire les pires trucs. Hein. Mm. Je vais le voir, j'ai trop d'amour pour lui. Même Bruno, je peux même. Bruno, il va jamais te faire des excuses. Et moi j'ai déjà fait mes excuses plusieurs fois. Une fois, il y avait une émission à l'époque de Sarkozy, quand il avait supporté Sarkozy. J'avais dit un truc sur lui vite fait dans une émission de Jackie, déjà Jackie Show. Mais tu vois, ça, c'est quand t'es dans la trentaine.
Ouais.
T'es con, quoi. Franchement, là, je vais avoir 50 ans bientôt, dans quelques jours. C'est pour ça, les jeunes, ne pensez pas que vous connaissez tout. Quand tu as 20 ans, 30 ans, même 40 ans, tu ne connais pas la vie. 47 ans, tu commences. Mais pour en revenir à Bruno.
Déjà, c'est beau ce que vient de dire Mystique.
Oui,
c'est super beau.
C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est tout à son honneur.
Et toi, j'ai toujours voulu savoir, la première fois que toi, tu as vu Bruno, tu t'es dit, c'est quoi ce gars? Est-ce, parce que moi, tu sais, au début, je voyais Gynéco à la télé, je me suis dit, c'est un personnage, c'est pas possible. Mmh. Le mec fait semblant. Et en fait, il est pire dans la vie. Il est plus ouf encore.
Ouais.
À la télé, il se retenait.
Mmh.
Tu t'es dit, mais c'est quoi l'ADN? C'est quoi c'est un mutant?
Si tu veux, Bruno, c'est une espèce de Bart Simpson.
La première fois que tu l'as vu, t'avais quel âge? T'étais où?
Ça devait être à Porte-de-la-Chapelle. Mmh. Je devais déménager à Porte-de-la-Chapelle à 16 ans. Et je vois le gars. Et lui et moi, ça clique. Tu vois? Il y a quelque chose qui se passe. Et tous les gens, ils me disaient, moi, comme j'étais déjà une Kaira, je venais de Sarcelles, j'avais monté mon gang à Porte-de-la-Chapelle, Max Dormois, Marc Cadet, les RCA recherchés pour crime, attentat, tout ça. Et les gens, ils commencent à me voir traîner avec Bruno. Qu'est-ce que tu fais avec lui? N'importe quoi, Stomy! Tu vois? Et je sais pas, il t'apaise. Bruno, c'est. Tu passes des soirées merveilleuses avec lui. Tu vois, on passait la journée à marcher, la nuit à marcher, à refaire le monde. Et là. Il a une aura, il a une âme, les meilleures soirées de ta vie, tu vas les passer avec Doc Gynéco. Moi, j'ai un top 3, des meilleurs mecs, des meilleurs,
on veut le top 3.
Des meilleures soirées et moments que tu peux passer dans ta vie. Doc Gynéco, Jean Rachid,
ouais.
Ahmed Day. ces trois personnes-là, mais tu rigoles, tu rigoles. Jean-Rachid,
tu sais ce qu'il nous a fait, Jean-Rachid, une fois. Il nous a fait une blague incroyable sur toi. Il dit, les gars, il faut que vous rendiez un service à Stomy et tout. Je dis, bah Stomy, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, est-ce que Stomy, là, il monte son kebab vegan? Faut absolument l'inviter. Et donc, à l'époque, je dis, bon, réunion, je convoque les équipes. Bon, il faut faire Stomy, il faut aller faire un reportage sur son kebab vegan. Et toutes les semaines, je dis à la journaliste, bon alors, le kebab vegan, c'est quoi le reportage? Ouais, mais Stomy, il répond pas, j'arrive pas à l'avoir. J'ai cherché, le kebab vegan, il n'existe pas. Et j'appelle Jean-Rachid, je dis, Jean-Rachid, il n'existe pas le kebab vegan? Il dit, bah non. Ça, c'est Jean-Rachid.
Non, mais lui, un jour, Jean-Rachid, on doit faire un... On s'est dit à un moment, on doit faire un combat de boxe, lui et moi.
Ouais.
Tu vois? Parce que... Il y a une revanche à prendre sur moi, sur le passé. Et il est chaud, tu vois, il commence à faire des combats de boxe, il est là, il s'entraîne. Nanana,
il a dit, j'arrête le sucre, le pain.
Ouais. Donc, un jour, on met une date comme ça, on dit, on s'entraîne, on va faire un combat de boxe et tout. On appelle Hanouna pour monter le truc, gonfler le truc. Et après, finalement, moi, j'oublie, tu vois, j'oublie. Et nous, on s'était dit une date il y a 6 mois. Et lui, ce truc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Bercy. Hein. Et le normal combat, c'était à Bercy. Il va sur le parking de Bercy. Il rentre dans le parking à Bercy. Et il filme, il met ça sur Instagram. Il est en short comme ça, avec des boxeurs professionnels. Il dit, alors, Stomy, t'es où? Je t'attends, le combat de boxe, nana. Je dis, mais c'était il y a 6 mois, ça. On n'avait même pas parlé. Mais c'est un malade, Jean-Rach.
Ouais. Raconte-moi ta soirée la plus folle avec Bruno.
Franchement, je ne peux pas raconter. Le problème, c'est que moi et Bruno, les soirées qu'on a faites, je ne peux même pas le raconter dans un livre.
Ouais.
Je vais essayer. Je ne peux même pas raconter.
Bah si tu veux.
Je ne peux pas raconter.
Il est tard là, c'est bon.
Bruno, c'est un malade.
Ouais.
C'est un malade. On a fait, tu vois, une fois, chez lui, à la chapelle, dans la tour, il va avec une go dans la tour. Il commence à faire des dingueries dans le lit, tout ça. N'importe quoi. On était obligé de prendre le matelas de chez lui. Il habitait au 23e étage. Ouais. On a jeté le matelas par la fenêtre. Le matelas, tellement il avait fait n'importe quoi sur le matelas. Mais des trucs, mais...
Ah ouais,
ouais, bon, Bruno, magique.
Bah, vrai gynéco, quoi.
Ouais, ouais, vrai gynéco.
Je me suis aussi posé une question, c'est que Gangster d'amour, c'est pour de vrai? Autant Gangster que d'amour. Et t'as fait un morceau avec Julio Iglesias, t'as fait un morceau avec Jacques Dutronc. Et ce qui est marrant, c'est que ce rapprochement, aujourd'hui, le rap français le fait. Aujourd'hui, la chanson française vient s'inspirer du rap. T'as chanté avec Johnny. Quand on écoute ton premier album, il y avait du Scarface dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est cité dans tous les albums de rap. Est-ce que tu la sens maintenant, cette avance-là, ou cette influence-là? Quand t'écoutes le rap français d'aujourd'hui, tu dis, ah mais les trucs que moi on me reprochait, maintenant ils le font tous.
Non, je me dis pas ça. L'histoire suit son cours. En fin de compte, ce que je peux reprocher au rap français, des fois c'est le manque d'ouverture dans les médias, qu'il n'y ait pas eu ce relais là. Tu vois, j'aimerais qu'il y ait... Il y a un Nino chez Drucker, tu vois. J'ai l'impression que à notre époque, les portes elles étaient plus ouvertes où on a su les fracturer. Et j'aimerais que les jeunes rappeurs de maintenant soient invités dans les grands médias et que les mecs ils parlent bien et qui, tu vois, qui soient là en place. J'ai l'impression que maintenant le rap c'est dans une case et ça reste dans une case, tu vois. Victoire de la musique, tu vois.
Mais c'est en train de changer.
C'est en train de changer. Ouais,
là, il y a Bouscapé, ils organisent leur victoire de la musique à eux.
Voilà.
On n'a peut-être plus besoin de ces grands médias.
Oui, mais il faut y aller quand même. Il faut y aller pour que la ménagère, elle voit c'est qui les nouvelles stars du moment. Tu vois,
c'est important toujours.
C'est important, il faut y aller. Il faut qu'on crée nos médias, voilà, comme tu l'as fait depuis longtemps. Mais il faut y aller quand même.
Et je reviens sur le d'amour de Gangster d'amour. C'était quoi ta technique de drague à toi? Est-ce que déjà, toi, Stomy Bugsy, t'as besoin de draguer?
Franchement, je sais pas draguer.
Ah, ça, c'est les phrases de beau gosse. Voilà.
Non, je sais pas draguer.
C'est énervant.
Je sais.
Tu me dégoûtes. Ah, Stomy, je sais charmer. Tu viens de me dégoûter. Je te jure, Tu viens de me... Ah là là. Pense au chum un peu. T'as pas pensé
t'es
à
pas
nous.
Chum, t'es pas chum. Non, je charme. Je suis un charmeur. Non, je charme. Je suis plus un charmé qu'un charmeur.
Voilà, voilà. Non, je vais pas dire le mot là, mais putain.
Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus besoin maintenant. Ça ouais. va tellement vite maintenant.
Est-ce qu'à un moment, tu as conscience que tu étais une target pour plein de meufs? Non? Elle sonnait à ta porte, t'avais des lettres.
Ouais.
Tu devais avoir des dingueries, toi.
Oui, oui, oui. Jusqu'à présent, mais.
Jusqu'à
mais
présent.
Mais maintenant, je suis très centré.
Ouais. Des DM.
Je suis très. Très maintenant, même si tu vas m'attaquer en DM, je suis très respectueux, très.
Vegan.
Je suis un maître Yoda, mais.
C'est encore, plus, c'est encore plus technique pour tes choses.
Non, pour m'avoir, c'est pas. C'est très difficile.
Ah ouais?
Je me donne pas comme ça. Ouais. Ouais. Mon corps, c'est un temple. C'est sacré.
C'est la meilleure des techniques de drague, encore une fois. C'est-à-dire qu'il a trop parfait, quoi, le mec. Il est trop technique. Tu crois que ça va passer avec moi, cette disque? Mon corps, c'est un temple.
Mon corps, c'est un temple.
Il y a un morceau, avant de terminer, je voudrais qu'on écoute un morceau de toi et qu'on en parle, c'est « Je prie Dieu », Tommy Muggsy.
Okay. Je prie Dieu quand je suis dans la merde, il le sait, alors il me laisse dedans. Je prie Dieu quand je suis dans la merde, il le sait, alors je me relève. J'ai l'air con de parler à quelqu'un que j'ai jamais vu, que personne n'a vu. Moi, je veux peser, baiser toutes les filles qui passent à la télé, la présentatrice à l'actrice, prier le dieu opportuniste, même sniffer de la sur les seins d'une tasse à la Sharon Stone. Mon nez en farine et je suis stone. Je dis des bêtises et j'aime les dire. Je pourrais buter avec le sourire, fou rire.
C'est Tommy Bugsy, je prie Dieu avec ses paroles incroyables. Ce refrain, je prie Dieu quand je suis dans la merde, il le sait, alors il me laisse dedans. Waouh! Ça vaut pas mon corps, c'est un temple, mais c'est du gros niveau quand même.
C'est vrai que c'est un beau titre et je l'ai écrit ce titre-là quand j'habitais avec Passy à Medday, rue Seden. Passy, il avait acheté des piranhas qui se bouffaient entre eux.
Ouais, ouais.
Donc quand je dis la phase, il n'y a même pas de poisson dedans, c'était vraiment vrai.
Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Stoby? C'est toujours un kiff d'être avec toi, je te jure.
Qu'est-ce que tu peux me souhaiter
Déjà, bon. Maintenant, t'es en France pour de bon, c'est fini les
ouais,
US.
Non, je suis là.
Voilà.
Je suis là. Ouais, mon premier. De terminer mon prochain album.
Ouais.
Ouais, je suis en
train. Quand est-ce que tu fais un livre?
J'avais commencé déjà il y a 10 ans,
ouais.
8 ans. Mais heureusement que je ne l'ai pas sorti. Parce qu'en 7 ans, j'ai tellement changé.
Ouais.
Tu vois, en 7 ans, déjà, je suis devenu vegan. Donc je l'aurais sorti. Donc, c'est trop tôt.
C'est un livre avec de la viande.
En fin de compte, comme je change, pas je change, mais je deviens une meilleure personne. De jour en jour, je pense dans 5 ans. Dans 5 ans, je serai bien. Là, j'ai encore deux, trois petits trucs à régler chez moi.
Moi, je pense qu'il faut que tu fasses une série adaptée de ta vie. Parce qu'en fait, un film, ça ne suffit pas. On a parlé des films du rap français. Il y a eu NTM, il y a eu la série NTM. Mmh. Ministère Hammer, en réalité, c'est l'histoire la plus folle.
Ouais, Secteur A, Ministère
Hammer. Il y a deux histoires qu'on veut voir au cinéma. C'est Secteur A, Ministère Hammer et Mafia Kinfry.
C'est vrai.
Ça, en est où, la vôtre? En vrai, je sais que Passy était dessus.
Avec Passy, on était dessus. Passy, il avait bien commencé. Mais après, on a commencé à travailler avec les auteurs. Ils nous ont mis des auteurs qui étaient trop gourmands. Donc, on a mis le projet de côté. Mais on y reviendra. On y reviendra.
Il faut le faire.
Ouais, ouais,
faut faire. T'as ton fils qui est ton portrait craché. On peut jouer.
Ah, c'est clair.
Et il y a une autre série qu'on a envie de voir, mais c'est une série de moins de 18 sur ta vie. Quand est-ce qu'elle vient, celle-là? Mon corps est un temple, on l'appellera.
Ça, ce sera la période sur lapin.
Ouais.
La période des hot d'or et tout ça. Ouais, c'est vrai que cette avec Gynéco, Stomy et Gynéco, tu peux faire aussi juste une série. Stomy et Gynéco, Ministère Amer, Secteur A, il y a tellement de Stomy tout seul.
Secteur X. Merci Stomy.
Merci
beaucoup. Il faut aller voir ta pièce de théâtre absolument. Pour le devoir de mémoire et pour le kiff de voir Stomy en acteur, je le dis, Stomy, c'est un véritable acteur. Il allait s'entraîner à Hollywood, il joue dans tous les sens. Et voilà, acteur du hip-hop, acteur tout court. Merci Stomy.
Merci. Je tiens à dire qu'on joue encore, on reprendra la pièce en octobre, parce que c'est un carton.
Ouais.
Et voilà, on devait s'arrêter le 29 mai, et on la reprend après en octobre.
Eh bien, merci beaucoup Stomy.
Merci.
Et hâte de te revoir au théâtre, et puis tu reviendras en octobre en parler, tout simplement.
Ouais.
Merci beaucoup.
À bientôt, mon frère.
Verveine. Underground.